Les grands entretiens de Storia Voce. On retrouve Marie-Gwen Carichon.
Bonjour à tous, à ceux qui nous écoutaient et ceux qui nous regardaient, merci pour votre fidélité. Comme vous le savez, nos podcasts sont gratuits, mais si vous aimez nos contenus, n'hésitez pas à vous abonner et vous pouvez même faire un don. Pour faire ce don, il suffit de cliquer dans le lien que vous trouverez juste en dessous de ce podcast. Et contre ce don, vous pourrez recevoir un abonnement d'un an au magazine Histoire et Civilisation. Considéré comme l'un des plus grands films du monde, Les Sept Samouraïs est une production japonaise des années 50 dont l'histoire se déroule au Moyen-Âge japonais. Hormis la performance des acteurs, l'esthétique musicale et puis l'universalité du thème, l'intérêt de ce film a surtout été de populariser l'histoire du Japon et d'ailleurs plus précisément du Japon médiéval. Quelle meilleure porte d'entrée, me direz-vous, que les samouraïs, eux qui ont quand même traversé 1000 ans d'histoire. Mais le Japon, c'est aussi les mangas, les geishas, les sushis et les bonsaï, beaucoup de réalités qu'on peine parfois à imaginer dans la même histoire, dans la même société. Aujourd'hui, je vous propose de reprendre l'histoire à ses débuts, donc dans ses grandes lignes et plus précisément dans ses grandes lignes politiques. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai commencé cette interview en parlant des samouraïs. Comment s'est mis en place l'État japonais et comment il a évolué tout au long de son histoire? Comment gouverner un archipel et surtout comment se démarquer d'un voisin comme la Chine lorsque l'on est régulièrement sous son influence? Et pour parler de ce thème important et assez méconnu, j'ai la joie de recevoir Pierre-François Souyri. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est la première fois que vous venez sur Storia Voce. Vous êtes un grand spécialiste du Japon et d'abord du Japon médiéval. Ancien directeur de la maison franco-japonaise de Tokyo, vos livres sont aujourd'hui des références. Nous allons aborder le petit dernier, ou plutôt l'avant-dernier, Nouvelle histoire du Japon, un livre qui vient d'être réédité aux éditions Perrin. Et je tiens à mentionner un autre de vos livres qui, lui, est sorti chez Belin dans la collection Mondes anciens, avec un autre auteur, donc Laurent Nespoulous. Et le titre de ce livre, Le Japon des chasseurs-cueilleurs à l'an 1000. Au sujet donc des livres qui reprennent quand même l'histoire du Japon dans sa globalité, qui propose des synthèses, c'est important. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui on connaît peu cette histoire, même si la pop culture a aidé un petit peu à populariser certains thèmes. Mais en même temps, est-ce que proposer un livre de 600 pages sur toute l'histoire du Japon, c'est pas un petit peu ambitieux?
Certes. Certes, c'est ambitieux, mais en même temps, je crois que c'était nécessaire parce que il y avait, en tout cas quand j'ai commencé à l'écrire, c'est-à-dire au début des années 2000, il n'y avait pas grand-chose d'écrire en français sur cette question. Il y avait quelques livres en anglais, évidemment, et en japonais, bien sûr, mais en français, il n'y avait pas grand-chose. Donc, quand l'éditrice de Perrin m'a contacté pour m'a proposé de faire une histoire du Japon, je me suis dit qu'après tout, j'enseignais l'histoire du Japon à l'université et que j'avais des cours entiers sur l'histoire du Japon et que je pouvais donc peut-être en profiter pour le mettre par écrit et donc à la portée de tout le monde.
Et c'est vrai que c'est très facile à lire et vos chapitres sont bien découpés, donc on arrive à s'y retrouver. Cette histoire, vous confirmez, on la connaît mal. Les Français et généralement les Occidentaux connaissent mal l'histoire du Japon.
Bah, ils la connaissent mal parce qu'elle n'est jamais enseignée dans les programmes scolaires des écoles et des lycées. Donc c'est un pays exotique, alors que c'est depuis maintenant très longtemps une grande puissance économique. Et c'est un peu dommage, mais bon, les programmes sont ce qu'ils sont. On a déjà du mal à enseigner l'histoire de France, alors l'histoire des pays étrangers, c'est encore plus compliqué. Et c'est vrai que le faible nombre relatif de spécialistes du Japon explique aussi que le Japon ne soit pas encore au programme d'agrégation, par exemple, pour les enseignants des lycées ou du CAPES, et que donc l'histoire du Japon reste méconnue. malgré tous mes efforts.
Mais ça viendra. À force de lire, les gens commencent à apprécier la langue, du moins. Et puis, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses avec d'éléments de culture japonaise qui viennent en France et qui séduisent les Français. De quand datent les premières traces de vie au Japon? Qui sont les premiers habitants de l'archipel?
Alors, d'après le résultat des enquêtes et des fouilles archéologiques, il n'y a pas eu d'autres espèces humaines que les sapiens, déjà. Il n'y a pas eu Néandertal, de Denisovien ou d'autres espèces. Les premières traces humaines remontent à peu près à 35 000 ans. Et il s'agit donc de civilisations de chasseurs-cueilleurs qui ont peuplé l'archipel progressivement. En provenance sans doute de plusieurs directions, de l'Asie du Nord-Est, mais aussi de l'Asie du Sud-Est, peut-être même de la péninsule de Corée. Et petit à petit, s'est développée une civilisation paléolithique d'abord, puis ensuite une civilisation préhistorique qu'on appelle la civilisation de Jomon, qui est une société de chasseurs-cueilleurs, mais avec des particularités qui, justement, ont fait beaucoup tiquer les archéologues occidentaux, parce que ce sont des chasseurs-cueilleurs sédentaires, pour la plupart, vivant dans des maisons semi-enterrées et capables de enfin, qui ont connaissé la poterie bien avant les poteries du Moyen-Orient. On a pensé à un moment que c'était au Japon qu'avait été inventée la poterie, mais il semble que ce soit un peu plus compliqué que ça, parce qu'on a retrouvé en Sibérie ou en Chine des restes de poterie qui sont au moins aussi vieux. Donc on a une poterie à moins 14 000, alors qu'au Moyen-Orient, c'est bien après. Et cette civilisation de Jomon, donc, a des particularités tout à fait étonnantes, puisque ce sont donc des chasseurs-cueilleurs qui ne sont pas nomades. Ce sont des chasseurs-cueilleurs qui pratiquaient l'horticulture, mais pas l'agriculture. Ils savaient sélectionner les espèces de châtaigniers, par exemple, parce qu'ils mangeaient beaucoup de châtaignes. Il y a des forêts de châtaigniers qui sont des forêts entretenues par les hommes de cette époque-là, mais ils ne sont jamais passés au stade de l'agriculture. Probablement parce que le milieu leur permettait de chasser, de cueillir, puis c'est les chasseurs-cueilleurs et pêcheurs aussi. Le milieu ambiant, l'environnement leur permettait sans doute de ne pas avoir nécessairement à travailler la terre. Et le processus de néolithisation du pays, c'est-à-dire l'apparition d'une révolution agricole, est très, très récent. Puisque on pense que c'est au début du premier millénaire avant notre ère.
Alors, est-ce que ces chasseurs-cueilleurs dont vous nous parlez, ce sont les ancêtres des Japonais d'aujourd'hui?
Oui, non. C'est très difficile de répondre à ces questions. Est-ce que les hommes de Lascaux sont nos ancêtres? Je ne sais pas.
Est-ce qu'il y a eu d'autres populations qui sont venues dans l'archipel?
C'est très difficile de répondre à ce genre de questions, probablement, mais il y a eu des peuplements, évidemment, des vagues de peuplements dont on n'a pas toujours très bien connaissance, mais qui sont arrivés, comme je disais, donc soit d'Asie du Nord-Est, soit d'Asie du Sud-Est, soit du continent asiatique, au cours des siècles, au cours des millénaires, et qui se sont mélangés. Donc les Japonais d'aujourd'hui ne sont pas les descendants directs des Jomon. Il y a eu des mélanges, il y a eu des métissages. Et ce sont des questions qui, en fait, plaisent à certains, à ceux qui se posent la question de l'identité, mais qui finalement n'ont pas grand sens. Savoir si les Japonais de Jomon sont les ascendants des Japonais d'aujourd'hui, c'est pas une question qui est nécessairement très intéressante, parce que d'abord, ils parlaient une langue qu'évidemment, on ne connaît pas et on ne connaîtra jamais, qui n'était pas nécessairement, d'ailleurs, un proto-japonais quelconque. C'est peut-être une langue très différente, on ne sait pas. De même que chez nous, les hommes du paléolithique en Europe de l'Ouest ne sont pas nécessairement les ascendants des peuples d'aujourd'hui.
Oui, donc des questions qui peuvent surgir quand on a un questionnement identitaire ou quand le Japon a eu des besoins de réponses, peut-être pour un projet politique, mais que l'historien regarde autrement.
C'est un projet politique de vouloir absolument faire remonter l'histoire à l'histoire du pays, enfin le roman national, comme on dit maintenant, à des époques très anciennes. Mais pendant longtemps, les Japonais ont considéré l'époque Jomon comme une période qui n'était pas de l'histoire du Japon. Pour eux, le Japon, c'était le riz. Donc le Japon commençait avec la riziculture inondée, c'est-à-dire au cours du premier millénaire avant notre ère. Et ce qui était autrefois la civilisation de Jomon, c'est considéré comme une civilisation de gens étrangers, que les Japonais avaient conquis, ou dominés, ou asservis. Et il fallait attendre les années 1950-60 pour qu'on se rende compte qu'il y avait sans doute une continuité entre Jomon et Yayoi, qui est la période suivante, le début de l'agriculture. Mais ça renvoie à des questions politiques plus que des questions scientifiques, en réalité.
Ouais. Alors, à partir de quand l'archéologue, parce que vous nous avez parlé des traces, justement, que laissent ces chasseurs-cueilleurs, c'est un petit peu le travail de l'archéologue. Mm-hmm. À partir de quand cet archéologue, il laisse la place à l'historien ?
Mais il ne laisse jamais la place à l'historien.
Quand est-ce qu'on a des écrits ?
Oui, alors si vous entendez par là les origines de l'écriture, alors bon, les premiers textes écrits au Japon, sur le Japon, sont des textes relativement récents, puisqu'ils datent du début du 8e siècle de notre ère. Alors auparavant, l'écriture chinoise était connue, à défaut d'être maîtrisée, et on a dès le 5e siècle les premières inscriptions, notamment sur des épées, qui nous indiquent que les chefs, en tout cas, comprenaient à peu près ce qui était écrit dessus, puisqu'on a des textes qui disent, en gros, le roi de telle contrée offre une épée au roi de telle autre. Donc, tout ça étant écrit en chinois, mais avec des caractères qui sont pas nécessaires, enfin, qui visiblement renvoient à des noms de lieux ou de personnes qui sont pas des noms chinois, mais bien des noms japonais. Donc, on a les premiers signes, disons, d'une compréhension de l'écriture au 5e, 6e siècle, mais c'est vraiment à partir de la fin du 7e et du début du 8e siècle que les Japonais, ou les ancêtres des Japonais, commence à maîtriser l'écriture chinoise.
Donc un archipel sous influence chinoise.
Chinoise, oui, à l'école de la Chine. C'est-à-dire que la Chine apparaît, vers le 5e, 6e, 7e siècle, comme, disons, le référent culturel. La Chine se conçoit elle-même comme l'empire du milieu, le pays du milieu. Et les civilisations qui tournent autour de la Chine, enfin qui sont installées autour de la Chine, sont considérées par les Chinois comme des civilisations barbares. Mais la barbarie, en quelque sorte, peut être maîtrisée si ces populations dites barbares apprennent ce que c'est que la civilisation chinoise, c'est-à-dire maîtrisent la langue, enfin du moins l'écriture, et commencent à appliquer des méthodes d'organisation politique, administrative, fiscale, qui ressemblent ou qui sont identiques à celles de la Chine. Et que les dirigeants de ces États qui se construisent autour de la Chine acceptent la suzeraineté formelle de l'empereur de Chine.
Alors quand apparaît l'État japonais ?
Alors quand apparaît l'État japonais, d'abord... C'est une question qui n'est pas si simple que ça, parce qu'on ne peut pas dire, tiens, telle année, ça apparaît.
C'est jamais simple.
Il existait, en tout cas, dans les premiers siècles de notre ère, il existait des chefferies ou de petites principautés qui se sont constituées. Il y en avait plusieurs dans l'archipel. Et autant qu'on puisse le savoir, celle qui est installée dans le Yamato, c'est-à-dire la région actuelle de Nara, qui est le cœur historique du Japon, celle-ci s'est imposée au détriment des autres. Et le chef de cette principauté qui est née dans le Yamato est sans doute à l'origine de la famille impériale. Donc il y a sans doute à ce moment-là, donc on est vers le 5e, 6e, siècle, il y a quelque chose qui se passe là et qui va donner naissance. C'est pas encore un État, mais ça va donner naissance à ce qui va devenir l'État. Alors si je voulais aller plus loin, je pourrais dire sous le règne du Tenno, c'est-à-dire de ce que nous appelons l'empereur, sous le règne du Tenno qui s'appelait Temmu, qui a régné entre 673 et 686, on a tout en même temps l'émergence du nom du souverain, le Tenno. Avant, on disait un grand chef. Là, maintenant, on dit l'empereur, enfin, le tenno. Le mot de Japon apparaît à cette époque-là. Il est utilisé dans la diplomatie vis-à-vis de la Chine.
Ça veut dire qu'il y a un détachement par rapport à la Chine. Ça
oui,
peut révéler
on
ça.
Peut, on peut dire ça comme ça, mais il y a surtout une volonté de mettre en place, de faire savoir aux Chinois qu'il existe quelque chose de civilisé ici. Et ce ici, c'est à l'est de la Chine. Et c'est même, si on veut être un peu méchant, c'est même avant la Chine, puisque le pays du soleil levant, il se lève chez nous avant qu'en Chine. Les Chinois n'ont pas du tout aimé ça. Hein. Parce que le tenno, ça signifie l'étoile polaire, ou bien ça signifie un point fixe dans le ciel. Ça signifie donc quelque chose qui est absolu. Tandis que l'empereur, dans le système idéologique chinois, c'est le fils du ciel. Donc il y a le ciel et il y a le fils du ciel. Tandis qu'au Japon, c'est un point fixe dans le ciel. Donc, du point de vue des Chinois, c'était complètement aberrant. C'était bien la preuve d'ailleurs qu'ils étaient barbares. Mais du point de vue des Japonais, c'est une manière de se dire, de se montrer vis-à-vis des Chinois comme étant quelque chose de différent d'eux et en même temps, quand même pas si lointain qu'eux, puisqu'on parle à peu près dans la même langue, dans la même écriture. Et, enfin, on ne parle pas dans la même langue, mais on parle dans la même écriture. Et c'est une volonté à la fois de se différencier et en même temps de montrer qu'il existe quelque chose de neuf et que les Chinois vont devoir intégrer ça dans leur manière de penser, dans le logiciel en quelque sorte politique. Et donc si on doit dire de quand date l'État japonais, moi je dirais, s'il faut vraiment donner une date, hein, je donnerais ça, fin du 7e siècle. L'empereur Tembu qui invente à la fois la notion d'empereur et la notion de Japon.
Et alors concrètement, comment est-ce qu'il gouverne le Japon, cet empereur et puis ses successeurs?
Alors, il gouverne à partir donc d'une cour, qui est une cour qui se déplace et qui petit à petit se fixe, devenant une capitale. Donc la première capitale du Japon, c'est, enfin il y en a eu plusieurs, mais la celle qui compte en tout cas, c'est Nara, au 8e siècle. Et puis ensuite Heian, donc Kyoto, à partir du début du 9e siècle, ou la fin du 8e. Ces capitales sont évidemment des villes qui ont une certaine importance. Il y a plusieurs dizaines de milliers d'habitants qui habitent là, avec des hauts et des bas, bien sûr, selon les périodes. Mais je dirais que le Japon est un pays où l'État, c'est d'abord la ville capitale. Mmh. Ensuite, ce sont les provinces et les routes qui permettent de rejoindre ces provinces. Dans chaque province est installé des bâtiments administratifs, un petit gouvernement local, qui lui a pour charge d'exploiter la province en question et de faire rentrer donc les redevances jusqu'à la cour. Donc il y a un aller-retour permanent. Et c'est comme ça que petit à petit, l'État est contrôlé. Et puis par ailleurs, cette cour qui est installée à Nara et plus tard à Heian, c'est-à-dire à Kyoto, cette cour, elle diffuse en quelque sorte un modèle culturel qui évidemment est emprunté à la Chine, mais qui est tellement imposant que les élites locales, régionales, cherchent à imiter. Mmh. Et par ailleurs, le système qui est mis en place, c'est ce qu'on appelle l'état des codes, c'est-à-dire un système de codes administratifs et juridiques qui permettent de donner des directives générales à l'administration. Ces codes sont écrits en langue chinoise. Donc, pour être fonctionnaire, il faut donc maîtriser l'écriture. Et maîtriser l'écriture chinoise. Et donc, pour les élites locales, ça devient une nécessité. Donc, on apprend à écrire. Et petit à petit, la civilisation chinoise, revisitée par les Japonais, se répand dans l'archipel.
Oui, une civilisation revisitée, mais qui s'uniformise aussi, de fait, au Japon.
Oui. Oui, elle est à la fois semblable et différente, hein, c'est sûr. De même que chez nous, l'Empire romain d'Orient, c'est pas tout à fait la même chose que l'Empire romain d'Occident. Ça se ressemble, mais c'est pas la même chose.
C'est pas la même chose. Pour qu'on ait un petit peu un élément comparatif, est-ce que il y a des points communs entre le Moyen-Âge japonais et le Moyen-Âge occidental? Est-ce que ça fonctionne un peu pareil, de la même manière? Ou est-ce que vraiment le prisme et la manière de penser, la manière d'agir, la manière de gouverner est totalement opposée?
C'est une question politique. Je dirais presque pas immédiate, mais qui en tout cas c'est une question politique qu'on s'est beaucoup posée au Japon et peut-être aussi un peu en Occident à la fin du 19e, au début du 20e siècle et même jusqu'au milieu du 20e siècle. Pour des raisons évidemment liées à l'impérialisme, au colonialisme, le Japon avait besoin de se sentir différent de la Chine et de la Corée. Et pour se faire admettre dans le club des grandes puissances impérialistes, il avait besoin que son histoire ressemble à celle des grandes puissances impérialistes. Mmh. Ils ont trouvé... c'était pas fou totalement, mais l'idéologie, c'est jamais totalement fou non plus. Il y a toujours une part de vrai dans tout ça. Ils ont évidemment compris très vite que la naissance d'une classe guerrière dans le Japon, à partir de l'an 1000 en gros, jusqu'au 19e, faisait du Japon un pays dont l'histoire était très différente de celle de la Chine et de la Corée, par exemple, qui sont des civilisations où les mandarins, les lettrés ont pris le pouvoir et l'ont gardé en quelque sorte pendant des siècles, voire des millénaires. Il n'y a jamais eu en Chine ou en Corée une classe de guerriers spécialisés dans la guerre qui ont pris le pouvoir. Or, au Japon, c'est le cas, avec les fameux samouraïs. Et donc, dans l'esprit de certains, les samouraïs, c'était donc la féodalité. Et donc, il y avait une féodalité au Japon, il n'y avait pas eu en Chine et en Corée. Et s'il y avait eu féodalité au Japon, il faut bien reconnaître que le Japon ressemblait quelque part à l'histoire de l'Europe. Et ça a été théorisé par certains historiens ou certains idéologues, cette idée-là. Et donc... Le Bushido, qui est donc la voix du guerrier, c'était un peu l'équivalent des codes de chevalerie occidentaux. Et donc le Japon avait un développement historique finalement parallèle à celui de l'Europe. Et certains allaient même jusqu'à expliquer que c'est dans les plaines du Kanto où se développe la chevalerie japonaise, les guerriers japonais, les samouraïs japonais, qu'est né vraiment un Japon indépendant et autonome par rapport à la cour impériale qui, elle, était toujours dans les schémas, disons, culturels chinois, avec même des réflexions qui aujourd'hui font un peu rire, du genre les samouraïs, c'est des vrais hommes. Il y a une virilité du samouraï qu'on retrouve aujourd'hui dans la capacité des Japonais à se forger une armée et à gagner des batailles. Alors que la cour de Kyoto, la cour de Heian, c'était une aristocratie, certes très, très cultivée, mais complètement avachie et efféminée.
C'est les mêmes thèmes qui reviennent dans toutes les histoires, toutes les nations.
Et que donc le vrai Japon était né là où il y avait les samouraïs, donc dans l'est du pays. Et donc que le Japon... l'histoire du Moyen-Âge japonais, c'était l'Europe en plein cœur du Japon, en quelque sorte. Et que donc l'histoire du Japon n'avait rien à voir avec celle de la Chine, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Donc ça, c'est un thème idéologique qui a été vraiment travaillé pendant longtemps, jusqu'après la Seconde Guerre mondiale.
Alors vous dites dans votre livre que, en effet, entre le 9e et le 13e siècle à peu près, la société japonaise est vraiment dominée par l'aristocratie.
De cour. Oui.
Donc, c'est à partir du 13e, on peut dire que les samouraïs commencent à avoir plus d'importance, ou comment est-ce que la transition se fait?
C'est-à-dire que cette aristocratie de cour, qui est donc héritière de ces codes administratifs dont je parlais tout à l'heure, est une aristocratie lettrée, extrême. Moi, j'admire beaucoup, parce qu'ils ont quand même été à la tête de ce pays pendant pas loin de 4 siècles. Sans effusion de sang majeure, la paix était maintenue, et les aristocrates, je caricature un petit peu, mais passaient leur temps à courtiser les filles et à écrire des poèmes. C'est pas tout à fait le même genre que nos samouraïs de l'est du pays, qui aimaient chevaucher, galoper, tirer à l'arc, chasser et évidemment combattre.
Alors pourquoi ces samouraïs?
Alors ces samouraïs, cette classe guerrière est née dans les provinces d'abord. Elle n'est pas née à la cour. Elle est née dans les provinces. Dans certaines provinces, même on pourrait dire, notamment celle de l'est du Japon, donc la plaine du Kanto, c'est-à-dire là où se trouve la ville de Tokyo aujourd'hui. Et dans cette plaine du Kanto, les samouraïs, donc c'est-à-dire les petits notables locaux, se militarisent et le Japon connaît à ce moment-là une sorte de période d'insécurité dans les provinces, avec naissance du brigandage, la piraterie, etc. Et donc les petits notables locaux commencent à s'armer et à se constituer des clientèles autour d'eux, d'hommes à eux, et petit à petit se met en place un système qui ressemble effectivement à la féodalité occidentale, avec un système hiérarchisé, une vassalité, et le vassal combat pour son seigneur en échange d'un bénéfice foncier que le seigneur lui accordera s'il est victorieux, évidemment. Donc ça, c'est quelque chose qui est effectivement très proche de ce qui s'est passé en Occident, en tout cas dans la France et dans l'Angleterre, d'à peu près la même époque, aux alentours du 10e, 11e siècle, 12e siècle. Et ça, cette concordance, en quelque sorte, des temps entre le Japon, qui est à l'extrémité de l'Eurasie, et la France et l'Angleterre, qui sont de l'autre côté, est tout à fait étonnante. C'est vrai que quand les premiers occidentaux portugais, espagnols sont arrivés au Japon au milieu du 16e siècle, les premiers rapports qu'ils écrivent à leur roi ou au pape, c'est pour dire à quel point la société japonaise ressemble à la société occidentale. Jamais, quand ils arrivent au Mexique, au Pérou, ils disent « Ah ben, ça ressemble à chez nous hein. ». Jamais. Or là, ils passent leur temps à expliquer « Oui, il y a comme chez nous des ducs, il y a comme chez nous des marquis, il y a comme chez nous des guerriers, il y a comme chez nous des villes libres, comme Venise et Gênes, Sakai, Hakata, c'est des villes libres, disent-ils. » Et donc, il y a cette idée que la société dans laquelle ils débarquent, évidemment culturellement totalement différente de la leur, mais sur le plan de son fonctionnement, elle ressemble à la société occidentale. Et que donc, d'un point de vue purement stratégique, l'Église a quelque chose à faire au Japon, puisque les Japons sont comme nous, sauf qu'ils ne connaissent pas Dieu.
Mais au moins, ils seraient réceptifs.
Ils sont comme nous. Mmh. Ouais. Et ça, c'est tout à fait intéressant. Donc, ce n'est pas tout à fait une idée folle de dire que le Japon était une société féodale comme celle de l'Europe. Bien sûr qu'il y avait des différences avec l'Europe, mais ça, c'est tout à fait normal. Mais néanmoins, il y avait une structure sociale qui n'était pas si différente. Et ça, je crois qu'effectivement, il y a eu un moment de l'histoire où la société japonaise et la société occidentale se sont rapprochées, non pas géographiquement ou culturellement, mais en tout cas sur le plan de la société, pour à nouveau se différencier par la suite.
Vous avez évoqué le code d'honneur des samouraïs, le Bushido, mais en fait, il apparaît qu'au XVIIe siècle.
XVIe
siècle. Donc, auparavant, est-ce qu'il y a un code d'honneur? Est-ce qu'il y a... Comment les choses sont formalisées?
Oui, enfin, le mot, je vous ai coupé là, mais c'est le mot Bushido qui apparaît au XVIe siècle. Les pratiques du guerrier, elles existent depuis qu'il existe des guerriers, c'est-à-dire depuis le début du Xe siècle, ou quelque chose comme ça. Donc, le courage, le sens de l'abnégation, la volonté de... La loyauté, ce genre de choses apparaissent très tôt. Hein, à côté, évidemment, des valeurs guerrières, purement guerrières, c'est-à-dire savoir tirer à l'arc, savoir monter à cheval, etc. Et ces valeurs-là ont été, en quelque sorte, mises en avant et considérées comme majeures à la fin des guerres civiles du XVIe siècle et avec le rétablissement de la paix au XVIIe, où le Bushido est apparu comme étant, en quelque sorte, l'essence même de ce qu'était cette classe de samouraï. Donc, ce qui est intéressant, c'est que ça, on l'a affirmé, mais il n'y a aucun texte qui dise « Voilà, le Bushido, c'est ça. » Il n'y a jamais eu un texte.
Donc, c'est vraiment la
tradition. Ce sont des valeurs générales.
Des valeurs partagées.
Ce sont des valeurs générales partagées et qui existaient de façon un petit peu éparpillée et qu'on a rassemblées sous le terme de Bushido au moment où les guerres civiles se terminaient. Ce qui est quand même paradoxal. C'est-à-dire que les guerriers n'ont jamais été autant des guerriers que quand ils ont cessé d'être des guerriers.
Parce qu'on peut peut-être plus les fantasmer aussi.
Ben oui, bien sûr. Oui.
Et alors, vous dites que donc, les samouraïs, cette classe guerrière se retrouve au sommet en fait, de la société japonaise, notamment dans la période Edo. Pourquoi cette période elle est importante? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là?
Alors, la période Edo, c'est donc la période qui va du début du XVIIe siècle au milieu du XIXe. C'est 250 ans de paix. Ça, c'est la première caractéristique de cette période. Alors que le Japon était plongé dans la guerre civile depuis, la guerre seigneuriale en tout cas, depuis des siècles, la paix revient et ce régime, donc dirigé par les shoguns Tokugawa, est un régime essentiellement pacifique.
Les shoguns, c'est les rois en quelque sorte,
oui,
les empereurs.
C'est les rois de du Japon, si vous voulez. Ces shoguns Tokugawa ont effectivement imposé une paix civile qui a duré 250 ans, ce qui n'est pas rien. Et c'est assez apparemment contradictoire parce que la classe dirigeante du Japon à cette époque-là, c'est les samouraïs, c'est les guerriers, et il y a la paix.
Comme quoi ?
Comme quoi, quand on supprime les samouraïs à la fin du 19e siècle et qu'on met en place une société capitaliste avec des bourgeois, etc., alors là, on fait la guerre tous azimuts, en Chine, en Corée, partout. Donc, le développement de la modernisation, de la naissance de l'État-nation à la fin du 19e siècle sur les ruines du régime des Tokugawa, c'est aussi le début de la guerre, d'une guerre impérialiste qui se terminera en 1945. Donc, vous voyez, il y a des espèces de contradictions apparentes comme ça. Alors, pour en revenir à Edo, c'est une période très importante de l'histoire du Japon. Alors, parce que y a la paix, bien sûr, et qui dit paix dit développement technologique, développement démographique, développement culturel, développement urbain. Et le Japon, pour vous donner une idée, passe à peu près de 1600 à entre 10 et 15 millions d'habitants. En 1850, on est à plus de 30 millions. Donc le Japon connaît une expansion démographique considérable. Les villes japonaises, il y avait pratiquement que Kyoto au Moyen-Âge, plus un petit peu quelques ports comme Sakai ou Hakata. Mais là, désormais, il y a des villes qui se construisent, qui apparaissent partout et qui sont très, très, très peuplées. Hein. On dit toujours que Tokyo, Edo avait 1 million d'habitants vers 1700. Il en avait sans doute plus. Mmh. Et à la fin de la période, c'était sans doute, on était plus près de 2 millions que d'1 million. C'est quand même considérable. Osaka avait 300 à 400 000 habitants, Kyoto autant, etc. Donc, on a vraiment une société urbaine qui se met en place et qui est accompagnée donc par ce qu'on a appelé un peu vite la fermeture du Japon. La période d'Edo, c'est une période de fermeture. C'est-à-dire que le Japon, au lieu de se lancer sur les mers, comme il avait commencé à le faire d'ailleurs au 15e et au 16e siècle, se rétracte en quelque sorte sur l'archipel. Et au lieu que cette fermeture du Japon débouche sur une stagnation terrible et sur une sorte de déliquescence de la société, eh bien, au contraire, il y a une sorte de développement interne qui s'est produit. Et une expansion donc économique qui était considérable pendant toute cette période. Avec des hauts et des bas, bien sûr. Avec des périodes de famine, mais aussi des périodes d'expansion, etc. Et cette époque d'Edo était fondamentale sur le plan culturel, c'est vraiment un moment d'apogée de la civilisation japonaise, on peut dire, hein, d'une certaine façon.
Un temps de fermeture et un temps de progrès.
Oui.
Et je suppose qu'à ce moment-là, s'il y a peu d'échanges, le Japon est un peu isolé. On le connaît moins, de fait.
Alors, le Japon est quand même très isolé. Il est en contact avec l'Occident par le petit port de Nagasaki, où un vaisseau hollandais est autorisé à accoster. Les autres étrangers ne sont plus acceptés. Les Portugais et les Espagnols ont été expulsés, les autres aussi. Donc il ne reste plus que ce petit enclave par lequel circulent quand même un certain nombre de choses, notamment à partir de la fin du 18e et du 19e siècle. Les Japonais commencent à acquérir et à faire traduire des ouvrages importants de science occidentale. Connaissent aussi des peintures qui leur permettent de découvrir, par exemple, la perspective. Bref, il y a toute une série d'échanges qui se font à ce moment-là, qui sont tout à fait importants et qui vont, en quelque sorte, faire maturer la société, hein, et qui, petit à petit, va être contrainte de se réouvrir à nouveau.
Un peu contrainte et forcée, d'après ce que vous écrivez.
Un peu contrainte et forcée, oui, bien sûr.
Par les canons américains.
C'est la grande époque des canonnières, hein, la diplomatie des canonnières, comme on disait au XIXe siècle, c'est-à-dire que les Américains imposent avec les Américains d'ailleurs, viennent les Russes, les Britanniques, les Français, etc. Et on impose donc une ouverture du pays aux conditions des Occidentaux. C'est pour ça qu'on appelait ces traités des traités inégaux.
Pour des raisons commerciales.
Pour des raisons commerciales, oui, essentiellement, oui.
Et donc là, on est en 1854.
Oui, c'est
à peu
ça.
Près.
Là, les premiers, l'ouverture, la première ouverture, c'est 1854. Les traités de commerce dits inégaux, c'est 1858. Et ça va déclencher une crise politique et sociale telle que le régime des Togo va s'effondrer donc en 67-68.
Et on arrive donc à la dynastie Meiji.
Oui.
Donc il y a une restauration.
C'est pas une dynastie, hein, c'est la dynastie impériale qui. Le nom de l'empereur, c'est Meiji.
Une restauration. Je suppose que ça change beaucoup de choses au Japon, parce qu'on a à la fois l'ouverture et cette nouvelle dynastie. Qu'est-ce qui change dans le quotidien de ces Japonais à ce moment-là?
Oh ben, c'est une véritable révolution. Pas l'année 68, mais dans les années qui suivent, il y a toute une série de dispositions qui vont être prises par le gouvernement qui, de fait, abolit l'ancien système, l'ancien régime, la féodalité.
Donc la féodalité, elle court jusque, on peut le dire, au milieu du 19e siècle.
Voilà, elle court jusqu'en 68, ou bon, disons jusqu'en 71, 72. Mais les traits principaux de la féodalité sont abolis à ce moment-là. Hein. Commencer par les statuts sociaux. Par exemple, le statut de samouraï disparaît.
Et donc, on peut dire que c'est la fin des samouraïs.
Oui, c'est la fin des samouraïs.
Donc, ça a duré à peu près 1000 ans.
Ben oui.
Tout de même. Alors, oui. La figure a évolué.
Oui, alors, la disparition des samouraïs, c'est la disparition de ces gens, donc... qui avaient le droit de se promener dans la rue avec leurs deux sabres et qui étaient très fiers de se promener comme ça. Mais dans les faits, les samouraïs n'ont pas véritablement perdu le pouvoir. Quand on regarde les chiffres, par exemple, de ceux qui peuplent la fonction publique de l'État japonais à la fin du 19e siècle, on est à des taux aux alentours de 70-80%. De gens qui sont d'origine samouraï, dans les bureaux de l'État, la diplomatie, la police, le ministère des Finances, etc. etc. Donc on a une colonisation, en quelque sorte, de l'État par les anciens samouraïs, qui ne sont plus des samouraïs, mais qui néanmoins, alors ils sont habillés, je dirais, à l'occidental de plus en plus souvent, mais ils sont là, enfin je veux dire, il y a eu un certain nombre d'anciens samouraïs qui n'ont pas su se mettre, disons, à la page. Oui, ça fait beaucoup penser à ce qui s'est passé d'ailleurs en Union soviétique et dans les pays de l'Est.
Ouais.
C'est-à-dire que quand on regarde les choses de très près, l'Union soviétique s'est effondrée, mais la plupart des chefs du Parti communiste sont restés en place pendant très longtemps. Ils le sont encore en partie, dans le régime de Poutine aujourd'hui. Quand on regarde, par exemple, l'Allemagne de l'Est, on voit très bien qu'il y a un certain nombre de personnes qui n'ont pas su s'adapter au nouveau système politique économique après la chute du mur de Berlin. Ces gens-là étaient trop, en quelque sorte, à l'intérieur du système communiste, de la RDA. Ils n'ont pas su s'adapter à la nouvelle donne. Et ben là, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'on a un certain nombre de samouraïs qui n'ont pas su faire. Donc, ils se sont appauvris très très vite en quelques années. Se sont retrouvés prolétaires. Et évidemment, de méchantes humeurs. D'où les révoltes dans les années 1877. La guerre du Sud-Ouest, par exemple, qui est une véritable guerre civile qui débouche sur la. Sur le massacre de ces groupes de samouraïs révoltés, mais il ne faut pas croire que la modernisation du Japon et la naissance de cet État-nation s'est fait sans heurts. Il n'y a pas eu des grands massacres non plus. On n'est pas dans un système où on a massacré ou emprisonné massivement, mais quand même, il y a eu quand même des secousses.
Oui, vous avez utilisé le terme de modernité souvent avec... Avec cette restauration, on parle de modernité. Est-ce que, par modernité, vous entendez ou on entend occidentalisation?
Alors, dans un bouquin que j'ai écrit là, il y a quelques années, qui s'appelle « Moderne sans être occidental », j'explique justement qu'il y a différentes manières d'être moderne, et que contrairement à ce qu'on croit, la modernisation du Japon, ce n'est pas que l'occidentalisation. C'est difficile à comprendre pour nous, mais le Japon n'a jamais été aussi chinois que quand il s'est modernisé. Et la plupart des discours mis en place après 1870 ou 1880 sont des discours qui sont en fait des discours en catégorie confucianiste pour parler de la modernisation. Alors je pense que vous ne comprenez pas ce que je veux dire parce que je ne suis pas assez clair. Mais par exemple, le Japon se dote d'une constitution moderne en 1889. Et les gens du pays se sont lancés dans un mouvement de... dans les années 1880, dans un mouvement de... comment dire, de... chacun, dans son village, proposait une constitution. Il y a une espèce d'effervescence politique où les gens essayaient de réfléchir à ce que pourrait être une nouvelle constitution. Mais ils ne disaient pas une constitution. Ils disaient la voie du ciel. Il faut vraiment reprendre la voie du ciel. Ou la voie royale. Enfin, ça dépend, il y a plusieurs expressions. Et la voie royale, la voie du ciel, si vous voyez, une pétition de paysans ou de paysans riches ou de bourgeois dans un quartier qui réclament une nouvelle manière de comprendre ce que c'est que la voie du ciel, vous dites, mais qu'est-ce qu'ils nous racontent, ces gens-là? En fait, c'est ça. C'est-à-dire qu'ils pensent en catégorie chinoise, en catégorie confucianiste, pour imaginer ce que sera la modernisation réelle. Et j'ai envie de vous dire, so what? Qu'est-ce que ça peut faire, en fait, qu'on ne pense pas en catégorie occidentale pour imaginer la modernisation? On peut très bien penser la modernisation en catégorie différente, si le résultat est le même.
Il y a toujours cette influence,
influence
de la Chine, dès qu'on réouvre.
Il y a l'influence de la Chine, il y a aussi d'autres influences. Par exemple... Un autre type de choses qui sont intéressantes, par exemple, les premières féministes japonaises, ça c'est pas très connu en Occident, mais les premières féministes japonaises dans les années 1910 à peu près, y en a une d'entre elles qui écrit un texte qui dit, enfin je cite de mémoire, hein, les femmes sont comme la lune, elles sont éclairées de la manière blafarde dont est éclairée la lune. Autrefois nous étions le soleil, redevenons le soleil. Bon. Alors, quand on lit ça, on se dit, oui, c'est de la poésie, bon, ça. Mais en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on regarde ce qu'est l'idéologie Shinto au Japon, hein, l'idéologie, la religion locale, la religion populaire japonaise, le soleil est une déesse. La déesse Amaterasu qui illumine le monde. Or, c'est la déesse du soleil qui est l'ancêtre de la famille impériale. Donc, redevenons soleil, ça veut dire redevenons ce que nous étions autrefois, c'est-à-dire nous qui éclairions le monde, nous les femmes. Et ceci nous a été confisqué par les hommes qui ont fait de nous des lunes blafardes. C'est donc, en fait, l'utilisation du Shinto, ou du discours sur le Shinto, les discours sur les mythes du 8e siècle, qui ont été rédigés au 8e siècle, qui ressortent par la fenêtre, en quelque sorte, au début du 20e siècle, pour expliquer ce que devrait être une société... Alors, elles disent pas féministes, mais une société où il y aurait, où les hommes et les femmes seraient considérés comme égaux. Ce qui, dans la société de cette époque-là, était loin d'être évident.
Ce qui est intéressant, c'est que cette modernité, elle passe en fait par une restauration du gouvernement impérial.
Oui, alors ça, cette restauration du gouvernement impérial, c'est parce que dans le Japon de cette époque-là, si vous voulez, les ceux qui ont fait la révolution Meiji sont en lutte contre la féodalité, en réalité. Le féodalisme. Et pour eux, le féodalisme, c'est une société qui est décentralisée. Bien, il y a les fiefs avec des octrois, dès qu'on passe d'un fief à l'autre. Enfin, bon, il n'y a pas une unification du marché et les forces sont dispersées. Ce qu'il faut, c'est un État centralisé. Et si l'Angleterre, la France et les autres pays d'Occident, comme les États-Unis, sont des pays puissants aujourd'hui, c'est parce qu'ils sont centralisés, disent-ils. Ce qui est tout à fait discutable, bien entendu. Alors la France, oui, mais les États-Unis, c'est un État fédéral, c'est pas spécialement centralisé, mais enfin bon, peu importe, c'est comme ça qu'eux le voient. Et donc, pour revenir à un État qui serait pas centralisé, il faut revenir à la période avant les samouraïs, avant le Moyen-Âge, où là, il y avait une cour impériale qui dirigeait le pays depuis le centre, depuis la capitale. D'où l'importance de restaurer l'empereur, qui est au centre de ce dispositif. Mais qui est au centre de ce dispositif de façon purement symbolique, parce que dans la réalité, il n'a aucun pouvoir.
Qui a le pouvoir dans la réalité ?
Ben dans la réalité, ce sont tous ceux qui sont autour de lui. C'est-à-dire les ministres, les politiques, etc. Les hommes d'affaires, éventuellement. Mais lui en a très peu. On dit que la seule chose où qu'il a imposé, c'est qu'on voulait installer l'électricité dans sa chambre à coucher, il ne voulait pas. Il a réussi à obtenir qu'on n'installe pas l'électricité dans sa chambre à coucher. Bon, c'est une anecdote, je ne sais pas ce qu'elle vaut, hein, mais c'est pour vous dire qu'il n'avait aucun pouvoir, en fait.
Une dernière question, Pierre-François Souyri, on arrive donc au terme de notre émission. Est-ce qu'on peut parler, à ce moment-là, d'émergence d'un État-nation ?
Oui, tout à fait. C'est ce qu'ils essaient de mettre en place. Ils mettent en place un État-nation dans les années... à partir de Meiji, donc à partir de cette révolution, dans les années qui suivent, dans les 30 ou 40 années qui suivent, tout va être fait pour que le Japon devienne une sorte d'État-nation. C'est un des États les plus centralisés du monde, peut-être presque autant que la France, ou en tout cas, oui, autant en tout cas, et qui est un... Alors, on met en place toute une série de systèmes qui font en sorte que les Japonais doivent se sentir tous d'abord japonais. Pas de telle province, pas de tel département, pas de telle ville, mais tous japonais. Et donc, il y a effectivement une mise en place d'un État-nation, et cet État-nation devient extrêmement agressif par rapport à ses voisins, et s'impose donc dans le concert des nations comme étant une grande puissance régionale à partir, disons, de 1900, pour simplifier. Et ça va l'amener à la catastrophe qu'on connaît.
Oui, et puis c'est un petit peu l'image aussi qu'on a peut-être plus facilement du Japon, un État très centralisé et belliciste. Mais ça, ce sera le sujet d'une autre interview. Merci Pierre-François Souyri.
Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie.
Et d'avoir répondu à nos questions. Donc, on a vu quand même un petit peu l'évolution du gouvernement sur cet archipel. C'est une histoire très riche, qui ressemble, c'est vrai, un petit peu à l'histoire de la France, à l'histoire de l'Occident, mais complexe. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas, avec cette nouvelle histoire du Japon, donc votre dernier livre qui vient d'être édité aux éditions Perrin, mais vous avez publié beaucoup d'autres ouvrages qui restent disponibles et qui peuvent nous permettre de mieux connaître l'histoire de ce pays méconnu. Merci à tous pour votre écoute et pour votre fidélité, et je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro de nos grands entretiens.